en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. L'émission En habit vert est consacrée à retracer le parcours d'un académicien pour vous permettre de découvrir les principales étapes de sa vie et percevoir l'intérêt de son œuvre. Et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui un artiste dont le talent a été reconnu par de prestigieuses récompenses, un artiste qui siège à l'Académie des Beaux-Arts depuis le 13 juin 1984. Dans la section peinture, mais qui, depuis plus de 10 ans, depuis le 2 octobre 1996 précisément, a été élu secrétaire perpétuel de cette académie, monsieur Arnaud Dautrive. Monsieur Dautrive, bonjour.
Bonjour, madame.
Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Je me propose de retracer avec vous quelques-unes des grandes étapes de votre vie pour que nos auditeurs puissent vous découvrir. Votre enfance, d'abord, vous êtes né dans un département français qui a beaucoup souffert de la guerre, de la Première Guerre mondiale, c'est l'Aisne. Étiez-vous dans une famille qui prédisposait à devenir artiste ?
Alors, j'allais dire absolument pas. Nous sommes, j'allais dire, nés dans cette région de l'Aisne, c'est-à-dire le bas du département de l'Aisne, dans ce triangle qui comporte Soissons, Laon, Château-Thierry et Reims, par accident, car nous sommes, comme vous le savez peut-être, originaires de Louisiane. Voilà. Nous sommes une des vieilles familles louisianaises qui ont participé à la création de cet État qui était l'État de Louisiane, qui allait du Mississippi, de son delta, jusqu'au Grand Lac. Donc c'est un Dautrive qui, avec ses fils, a débarqué, lors de la création de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire en 1718, en Louisiane, et qui a été gouverneur également des territoires indiens, dont je suis, c'est-à-dire, l'émanation la plus directe. Ma mère était originaire de la région de l'Aisne, et c'est à l'occasion, effectivement, je ne voudrais pas vous importuner avec toute une histoire qui va être malgré tout réglée fort rapidement, car ma famille française, louisianaise, devient américaine lors de la vente de la Louisiane par Napoléon, et c'est mon père, étant de nationalité américaine, ayant fait ses études en France, qui a le droit d'opter pour la nationalité française. Ce qui, un siècle après, l'amène à devoir, ayant la nationalité française, à combattre au chemin des dames. Et c'est dans cette région, particulièrement bien
éprouvée,
nommée
voilà,
et éprouvée,
voilà.
Que je suis né.
Vous avez donc, je suppose, eu un talent pour le dessin. Comme on peut avoir un talent qui, comme ça, n'est pas expliqué, n'est pas vos parents qui vous l'ont particulièrement transmis, mais je suppose que vous avez reçu un encouragement de vos parents pour
alors,
devenir dessinateur
oui.
et peintre.
Alors, si vous voulez, je vivais dans une ambiance de personnes, du moins mes parents, mon père, même ma mère, étaient en fin de compte portés. C'était une famille, comme qui dirait, bourgeoise, je
qui
le
dis, appréciait,
qui
en tout cas,
appréciait.
Oui.
Nous avions donc une arrière-grand-mère qui avait été très proche de Georges Sand, très proche d'un peintre qui était Cals, avec, certaines personnes de l'époque. Un de nos cousins avait été un des grands collectionneurs de l'impressionnisme. J'ai des cousins qui ont été des décorateurs distingués.
Vous étiez
de l'époque.
Tout de même baigné dans cette ambiance
oui,
d'art, déjà.
Mais je ne dirais pas de façon très profonde. Nous avions nos grands-parents peints par différents artistes. Nous étions, si vous voulez, dans une famille qui nous avait quand même éduqués dans l'amour, quand même, des belles choses. C'est le terme que l'on employait donc à l'époque. Mais ce n'était pas, je n'avais pas de père particulièrement artiste, il était intéressé. Par contre, mon beau-frère est également artiste, est aussi premier Grand Prix de Rome, qui est le peintre brasilier. Son frère, l'architecte, était également premier Grand Prix de Rome de ma promotion. Alors là, nous nous sommes rattrapés avec également un fils, moi-même, qui est peintre.
Alors, Arnaud Dautrive, avant d'être premier Grand Prix de Rome, vous avez fait effectivement vos études aux Beaux-Arts de Reims, puis aux Beaux-Arts de Paris.
Oui, après les jésuites, car j'ai fait mes études chez les Gèzes, comme on disait, chez les bons pères à Reims, je suis rentré aux Beaux-Arts. Et alors, c'est là où, je ne voudrais pas vous étonner, mais j'avais une passion pour l'aviation. J'avais un de mes cousins, un des cousins germains de ma mère, qui avait fait toute la guerre dans le groupe Lorraine, qui était un groupe de bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'étais fasciné, dès mon plus jeune âge, par, j'allais dire, l'aviation. Et mon désir était de devenir pilote de chasse. Donc j'ai volé, j'allais dire, très tôt. Dès l'instant où je le pouvais, je faisais du planeur, j'ai connu Klostermann, j'ai connu donc toutes ces figures de l'époque, donc de l'après-guerre. Je volais non pas avec elles, mais je les côtoyais, et mon désir était de devenir pilote. Malheureusement, au moment d'être, j'allais dire, vraiment intégré, l'on a découvert que j'avais un problème de santé au niveau cardiaque, et on m'a ajourné me disant, écoutez, dans 6 mois, vous vous représenterez, mais comme c'est un souffle léger, il n'y a pas de problème. Vous serez incorporé. Et ma mère, qui était peut-être non pas plus ouverte que mon père à certaines choses, me dit, mais tu ne vas pas rester pendant 6 mois à attendre, à ne rien faire. Je vais demander à ton père de voir si tu ne peux pas, comme tu as toujours aimé le dessin et que c'était un des rares prix que j'ai toujours eu dans ma carrière de scolarité, eh bien, si tu ne peux pas rentrer aux Beaux-Arts. Je suis rentré donc aux Beaux-Arts et immédiatement, j'ai été pris par ce qui était en fin de compte, mon amour profond.
Heureusement pour les arts français.
Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que j'ai continué à peindre, à voler, pardon, excusez-moi pour le lapsus. Et en même temps, je faisais ce qui était pour moi exceptionnel, c'est-à-dire du dessin, bon, de la peinture.
Avez-vous gardé aujourd'hui des dessins de votre jeunesse ou de cette période d'apprentissage?
Très peu. En fin de compte, c'était des dessins, des exercices faits d'après le plâtre, ce n'était pas encore véritablement la peinture telle que j'allais donc la connaître. Alors, j'ai eu cette chance, mes études terminées à Reims, de passer ce qui a été le premier concours à l'échelon national qui me permettait d'entrer directement, sans admission, sans examen, dans les écoles supérieures, qui étaient l'école supérieure des Beaux-Arts et l'école supérieure des arts décoratifs. J'ai choisi naturellement les Beaux-Arts. Ce qu'il y a à cette époque, naturellement, arrive, j'allais dire, une phase douloureuse. Je perds mon père qui est tué accidentellement. Et de ce fait, je me retrouve, j'allais dire, seul face à mon avenir, sans aucune possibilité financière. Et c'est une période qui va être, j'allais dire, difficile.
Vous avez travaillé pour gagner votre vie.
J'étais balayeur au bazar de l'hôtel de ville. Pour vous dire, je me levais tous les jours à 3h30 du matin. Ne voyez pas de propos démagogiques. Ensuite, je faisais la plonge à l'école. Et ceci m'a réussi, car un an après, je partais avec le Grand Prix.
Alors, premier Grand Prix de Rome en 1957, vous avez 24 ans, vous êtes vraiment très jeune. On sait que cette bourse pour artistes permet aux gagnants donc d'aller à l'Académie de France, de passer un certain temps à l'Académie de France à Rome, académie qui a été fondée par Colbert, donc sous le règne de Louis XIV au XVIIe siècle. Vous êtes resté là 4 ans.
Alors, je suis resté 4 ans.
C'est
car en fin de compte,
4 ans,
ce qui m'avait marqué, je me souviens, avant d'avoir le prix de Rome, j'avais une fois ouvert une revue et c'était marqué le dernier conte de fées. Et il y avait l'interview donc d'un pensionnaire de la Villa Médicis. Et je m'étais mis intérieurement, au fond, c'est ça que je vise.
Voilà.
Et je ne pensais pas que la chose allait devoir se réaliser.
Comme quoi la pensée
peut-être rapidement.
Voilà. Et 4 ans à la Villa Médicis et aussi plusieurs années à la Casa Velázquez de Madrid. C'est le même modèle, le même
Alors,
schéma.
Après ces 4 ans où j'ai eu l'avantage d'être issu du système ancien, où nous avions encore les 3 mois de loge, où il y avait toute une préparation, tout un cursus très particulier, j'ai eu donc cette chance de partir pour Rome et également de connaître toute cette période de transition qui allait annoncer l'arrivée d'un peintre qui est devenu un très grand ami, qui était le peintre Balthus, qui
voilà.
est devenu directeur de la villa. Donc je me trouve dans cette frange entre l'ancien système, Institut de France, Académie des Beaux-Arts, et l'arrivée d'un personnage qui était en fin de compte l'émanation de notre ministre qui était Malraux.
Arnaud d'Autrive, il y a un autre aspect de votre personnalité et votre créativité se nourrit des voyages. Vous avez beaucoup, beaucoup voyagé. Vous auriez aimé être anthropologue, ethnologue, découvrir des populations.
Vous allez... Cette question me touche particulièrement, car en fin de compte, je dis toujours, je suis un adulte, mais qui a gardé une vision d'enfant. Vous savez, le monde de la campagne n'est pas le monde de la ville. Représentez-vous un village très modeste, un peu plus de 1000 habitants, perdu, où les vacances se passent entre cousins, où il n'y a pas de vacances au bord de la mer, où on vit, j'allais dire, au rythme de la campagne telle qu'elle se présentait avant la guerre. Comme l'on aurait dit en Louisiane, avant, j'allais dire, la guerre de sécession.
Mais on rêve, c'est des vacances où on rêve.
Il y avait un rêve, il y avait une sorte de force qui faisait que les enfants vivaient avec leur monde. En plus, c'était le monde également de la guerre que nous avons connu. Et je dis toujours, c'est certainement l'événement qui m'a le plus marqué dans ma vie.
Certainement, oui.
Et d'artiste. Bon, les souvenirs de cette guerre m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Et alors, il y avait, comme dans toutes les maisons, un grenier fabuleux dans lequel je me complaisais et où je passais des journées entières à feuilleter des revues, des livres qui parlaient d'exploration, de choses bon, très, très particulières, mais qui me passionnaient. Et mon rêve était, en fin de compte, quand on me le demandait à l'époque, je disais, je voudrais être explorateur.
Explorateur, voilà. Aviateur,
voilà,
c'était déjà beaucoup
alors,
de rêves.
C'était, en fin de compte, un goût de l'aventure, alors que je n'avais pas la morphologie, entre guillemets, pour être l'un ou l'autre. Bon. Et je me suis nourri, en quelque sorte, de toutes sortes... Alors, je lisais les relations de Brazza, de Livingston, de Schweinfurt, chez les Miagnam, chez les Monkbetou. Tout ça me passionnait. Et en fin de compte, je voyageais dans mon grenier. Et dans ce grenier où nous vivions, du moins avec mon frère Landry, qui était lui-même passionné. Nous avions l'un et l'autre ce goût de la lecture et puis de la découverte. Alors il y avait un énorme hibou, je me souviens, un grand-duc qui avait appartenu à un de mes grands-pères. Et on tirait sur une sorte de petite tirette et d'un seul coup, il ouvrait ses ailes et il avait des yeux oranges et tout ça nous séduisait. Il y avait toute une atmosphère,
bien
j'allais
sûr.
Dire, de voyage, de découverte.
Mais un jour, vous avez concrétisé ces rêves puisque vous avez beaucoup voyagé
Alors,
dans votre
vie. Alors, j'ai beaucoup voyagé. Je crois...
Quels sont les pays où vous n'êtes pas allé? Parce que ceux où vous êtes allé, c'est quasiment le monde entier.
Je pense que je suis... par le fait que par la suite, j'ai voulu satisfaire ce goût du voyage. Donc, je suis devenu peintre officiel de la marine. Mais je dois être à peu près à plus de 120 pays dans le monde.
Donc, il vous en manque
oui.
peu.
Quand même encore pas mal. Mais j'ai toujours été fasciné par les pays lointains, mais, chose étrange, ce sont les populations qui me passionnent le plus.
Les hommes vous intéressent.
L'homme me passionne particulièrement. Je le vois peut-être d'une façon simpliste, je ne rentrerai pas donc dans le détail, donc dans les éléments qui me portent à les aimer ou à m'y intéresser, mais j'aime le contact avec l'être humain.
Et y a-t-il un art dans tous les pays que vous avez visités? Y a-t-il un art qui vous a particulièrement ému, touché? Est-ce l'art africain ou plus l'art asiatique?
Alors,
bien que là, on fait des généralités très...
je ne voudrais pas déborder. En fin de compte, j'aime tous les arts. Ce qui est important, je dis toujours, dans une œuvre, c'est ce qui m'émeut. Et en fin de compte, tous les arts vous proposent une émotion. Plus ou moins profonde, mais toutes les œuvres que j'ai eu l'occasion, d'abord, je regarde, est-ce que cette œuvre m'émeut, provoque en moi quelque chose, une émotion, et c'est ça qui est important, avant toute cette dialectique, tout ce qui peut venir d'une réflexion ou d'une volonté d'y trouver ce que l'on souhaite.
Mais autant l'architecture que
absolument,
les objets,
absolument.
Que les peintures.
Je ne suis pas du tout limitatif dans mes goûts, dans mes souhaits. Et c'est pourquoi je dis toujours, je suis peut-être presque plus attaché à l'image de l'artiste, avec ce côté un petit peu libertaire d'ouverture, qui, en fin de compte, est ouvert à tous les arts. Car la peinture, la sculpture me passionne. Je dirais que je collectionne davantage la sculpture même que la peinture. Bon, la musique est pour moi indispensable. La poésie, la lecture. Et l'image même de l'artiste, dans le sens où je me sens bien dans cette enveloppe, est pour moi plus important que de pousser ma petite chanson en tant que peintre ou créateur avec, bon, toute la modestie que cela, donc, j'allais dire, comporte.
Arnaud Dautrif, nous allons marquer une courte pause et nous nous retrouvons dans un instant. Dans notre émission En habit vert avec Arnaud Dautrive, nous parlions de vos voyages. Prenez-vous des croquis lorsque vous voyagez? Avez-vous toujours un petit carnet pour dessiner?
Alors,
faire des pastels?
Je ne suis pas un peintre qui s'exprime sur le motif, comme on dit. Alors, naturellement, lorsque j'ai été nommé peintre officiel de la marine...
Ça fait rêver, cette appellation.
Cela
tout de même.
Fait maintenant 26 ans et que l'on m'a attribué, en fin de compte, ce titre de peintre de la marine et l'équivalent de capitaine de corvette, c'est-à-dire de commandant, et qui, ce qui me donnait la faculté de pouvoir voyager sur tous les océans. Je dois dire que la marine m'a fait un cadeau extraordinaire.
Voilà, vous n'avez pas fait l'aviation, mais plutôt la marine, finalement.
J'ai effectivement abandonné l'aviation et je suis tombé ensuite dans les bras de la marine. Alors là, j'ai découvert tout un monde que j'affectionne particulièrement. Le monde de la marine est un monde absolument fascinant, très différent de celui des terriens, très différent de celui de l'air. Et c'est un monde avec en même temps une rigueur et une qualité de vie humaine tout à fait hors du commun. Je dirais que dans le monde que nous vivons actuellement, la marine a quelque chose de très réconfortant. On va dans le sens de valeurs réelles, de fortes, de sentiments, de rigueur, de choses que malheureusement nous ne connaissons plus. Maintenant. Et la marine, pour moi, est un merveilleux réconfort. Quand je côtoie des officiers de marine, également des matelots. Je ne veux pas du tout...
Oui, j'ai eu l'occasion, grade,
par exemple, de plonger même en sous-marin d'attaque, qui étaient des petits sous-marins très proches de ceux de la dernière guerre, des U-boats. Quand vous avez plongé pendant 5 jours avec ces engagés volontaires, ces hommes qui sont véritablement des hommes, qui sont des gens d'une qualité unique.
Éloge de la marine par Arnaud Dautré.
Ça, je dois dire que ce sont des exemples qui, pour moi, ont été extrêmement forts.
Monsieur Dautré, il y a 2 événements récents sur lesquels on pourrait s'attarder un petit moment. Vous venez de recevoir le Grand Prix et la médaille du Fuji Art Museum de Tokyo. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors,
quelle est cette distinction?
C'est une distinction qui m'a été donnée donc il y a quelques semaines.
En juin 2006, donc.
Voilà, exactement. En fin de compte, c'est pour l'ensemble, j'allais dire, de mon œuvre, mais particulièrement pour les fonctions que j'assume au sein de notre institution, qui est l'Académie donc des Beaux-Arts, et la notoriété et les incidences que j'ai données donc à cette, j'allais dire, à cette institution.
Voilà, vous avez occupé beaucoup de fonctions et donc sur le site de l'Académie des Beaux-Arts, on trouvera en détail, effectivement, tout, on ne peut pas ici les aborder tous,
mais
c'est très important. Et il y a aussi un autre grand événement, alors pour l'Académie des Beaux-Arts, c'est que vous avez récemment aussi, en fin mai 2006, ouvert une section à la photographie. Alors, est-ce que cela aussi, vous pouvez nous dire pourquoi cela vous tenait à cœur?
Alors, vous êtes fort gentil de souligner, car c'est en fin de compte, à la suite d'un combat, le terme n'est pas donc excessif en disant cela, qui a duré fort longtemps, puisqu'il a duré 11 ans, que je suis arrivé à, non pas imposer, en tout cas à faire en sorte que la section photographie existe là donc au sein de notre institution.
Mais vous êtes une institution qui a des sections qu'on peut ouvrir. Il y a eu déjà une section audiovisuelle pour que le cinéma puisse faire partie des Beaux-Arts. Et maintenant, il y aura donc une section
photographique. Il y avait naturellement les sections, classique, si j'ose employer le terme classique, traditionnel, la peinture, la sculpture, la gravure, la musique, l'architecture, les mécènes. Mais il nous manquait le cinéma et l'audiovisuel. Et pour moi, il y a de ça maintenant 11 ans, je me suis aperçu que, effectivement, la photo manquait dans cette liste et avait tout à fait sa place par le fait que maintenant, reconnaissons-le, la photographie est tout à fait créatrice et également créatrice de monde comparable à ceux que propose la peinture ou la sculpture, bon, dans une autre dimension. Alors j'y tenais, ceci a été... je n'aime pas peut-être employer le terme combat, il fallait faire accepter.
Déjà la création d'une section.
Exactement.
Ce qui, en académie,
ce qui a effectivement duré, j'allais dire, fort longtemps. Ce qui prouve que ce n'est pas une décision qui a été prise comme ça sous un coup de.
Oui.
J'allais dire, de désir de vouloir imposer ce genre d'expression. En tout cas, maintenant, nous avons justement 2 photographes dont. Les 2 ont une expression, j'allais dire, différente, dans le sens où Lucien Clergue est un photographe qui a été, je dois dire, le premier photographe qui m'est porté vers la photographie. Car j'ai découvert Lucien Clergue il y a plus de 40 ans. Et j'avais acheté un ouvrage, justement, de son œuvre, à l'époque. Bon, pour ce qui est d'Artus Bertrand, je le connaissais car c'était chez son père qu'avait été réalisé Mon épée d'académicien.
On va en parler, en effet.
Et c'est là où j'ai fait la connaissance d'Artus Bertrand, fils.
Alors, ces 2 élections vont porter le nombre des académiciens de l'Académie des Beaux-Arts à combien maintenant?
Alors maintenant, nous sommes 57.
57.
57. C'est-à-dire qu'au départ, nous avions pensé intégrer ces 2 fauteuils que nous souhaitions dans les sections existantes. Mais aucune section, disons-le, n'a souhaité, abandonner un fauteuil ou deux fauteuils. Alors, nous avons simplifié en quelque sorte la chose, c'est-à-dire que nous avons demandé à notre ministère de tutelle la création de deux fauteuils consacrés à la photographie.
Ce sera limité à deux, parce que les sections ont en général 6 ou 7 voilà. membres, alors, mais là on limitera à deux.
Compte tenu d'un certain nombre de facteurs sur lesquels je ne veux pas m'étendre, ne serait-ce que par courtoisie, deux fauteuils me paraissaient donc très bien. Et nous les avons donc obtenus après un combat, si j'ose dire, tout à fait très fort.
Incessant. En tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, vous veillez aussi à ce que les académiciens et l'Académie apportent un soutien aux créateurs, aux artistes, parce qu'elle décerne de très nombreux prix, cette Académie. Cette année, je crois qu'en 2006, 700 000 euros
Absolument.
Ont été décernés à différents artistes et différents talents. C'est aussi une charge que vous assumez, celle-ci.
Alors, si vous voulez, lorsque l'on voit ce qu'est le rôle du perpétuel, on ne voit que la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on ne voit que les avantages, les côtés agréables, les rencontres. Mais il y a la partie,
gestion,
et qui est en fin de compte la partie primordiale. Et c'est en cela que peut-être parfois j'ai non pas une amertume, parce que le combat mérite, ce que nous faisons, mais c'est tout de même l'abdication totale de la création. Je suis un peintre, entre guillemets, bon ou mauvais, je ne sais pas, mais même, vous savez, pour un artiste, c'est tout de même fort dur, fort difficile d'abdiquer.
Mais oui, vous n'avez plus
tout
le temps,
qui est, effectivement, sa raison de vivre. Ce qui avait été mon cas. Alors, je me rattrape, je compense, permettez-moi le terme, par la passion, en tout cas l'intérêt profond que j'apporte à notre institution. Car c'est une institution, je le dirais, que j'aime profondément et envers laquelle je suis extrêmement respectueux. Mais notre travail est un travail maintenant de gestionnaire, c'est une histoire de chiffres, c'est une histoire de rencontres, de mondanité, de beaucoup de choses qui nous éloignent du monde véritable de l'art. Et parfois, c'est douloureux.
Pas trop. Alors, on va y revenir juste un instant. Au moins, quand vous portez l'habit vert, vous avez votre épée d'académicien. Quel symbole avez-vous choisi sur cette épée?
Alors, j'ai plusieurs symboles. Premièrement, il y a une figure nue qui est noir. Excusez-moi, par le fait que, l'image féminine me plaît particulièrement.
On la retrouve beaucoup dans vos peintures, en effet.
Je vois que vous connaissez bien.
Je vois que vous êtes au courant. Je m'y suis intéressé.
Donc cet amour de l'Afrique, cet amour de la femme, il y a un dauphin qui enlace cette femme et qui est censé donc représenter un poisson royal, donc c'est un hommage à la marine, dont je suis donc peintre officiel, et également par le fait que Hauterive est en dauphinois ou en viennois, donc c'est le dauphin, et car Hauterive est cette petite ville dont nous sommes issus, mais qui a ce célèbre château du facteur cheval.
Ah oui, oui, en effet.
Voilà,
fait, oui.
Donc vous avez certainement entendu parler. Alors il y a cela, donc c'est l'élément majeur. Alors il y a au sommet une rose des sables, c'est-à-dire mon amour de l'aventure. Vous avez également le masque qui représente avec le pic et le cœur, en fin de compte, la mort et l'amour. Et le côté toujours un peu ambigu, car en fin de compte, je suis un lunaire. Il y a le croissant de lune, je ne suis pas un solaire. Je suis un homme de la pénombre et peut-être de la nuit. Et puis, sur la lame, compte tenu de mes liens familiaux américano-espagnols de ma grand-mère. La lame est bleue pour évoquer Tolède et le fourreau est en caïman, ce qui évoque la Louisiane. Voilà, ça fait beaucoup de choses.
Ça fait beaucoup de choses, c'est une très belle épée. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Dautrib, d'être venu partager un moment avec nous, votre parcours, votre carrière et surtout votre amour de la peinture. Et merci pour tout ce que vous faites pour l'Académie des Beaux-Arts.
Merci, madame.